Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion pour ce deuxième numéro de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Un sujet difficile aujourd'hui, un de ceux sans cesse évoqués depuis des années et des années, mais jamais réellement traité, celui de l'assistance au suicide, ce qu'il est le plus souvent convenu d'appeler le droit de mourir dans la dignité. Alors bien, des gouvernements ont déclaré vouloir légiférer, la majorité des Français y est favorable, et pourtant l'impression de faire du surplace domine. Annoncée en septembre dernier, une convention citoyenne devra faire des propositions afin d'améliorer notre système sur de nombreux points défaillants. La première réunion n'a pas encore eu lieu, que déjà la conférence des évêques de France entre deux scandales d'abus sur mineurs s'élève contre toute modification de la législation en vigueur. Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair en compagnie de Madame Martine Lombard, professeure émérite de droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, qui vient de publier sur ce thème un essai passionnant, L'ultime demande, aux éditions Liana Lévy. Bonjour Martine Lombard, merci de nous accompagner dans notre réflexion.
Bonjour Patrick Canaliti.
Alors, on va voir un petit peu où on en est déjà. Quand on évoque l'assistance au suicide, la plupart du temps, la réponse est la loi Claeys-Leonetti règle presque tout, mais on ne l'applique pas correctement. En gros, c'est ce que disent les évêques, là, justement. Et déjà, le presque n'est pas anodin du presque tout. Que répondez-vous à cette rengaine ?
Eh bien, je réponds ce qu'a répondu le Comité consultatif national d'éthique, déjà, en septembre dernier. C'est-à-dire qu'il y a clairement des cas auxquels la loi ne répond pas, car il y a des souffrances réfractaires, c'est-à-dire des souffrances que aucun traitement ne peut apaiser, ni curatif, ni palliatif, et qui peuvent être subies par des malades bien avant le court terme dans lequel est autorisée la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et il ne suffirait pas d'étendre ce court terme, car comme l'explique très clairement cet avis, il y a des limites à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Elle ne peut pas durer longtemps, car au bout de quelques temps, elle ne fonctionne plus en fait. Là, il y a un système qu'ils expliquent très bien, qui s'appelle tachyphylaxie, et qui fait que l'organisme s'habitue à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il peut se réveiller.
Et donc, elle est impossible.
Et donc, en fait, elle peut servir tout à fait, effectivement, en fin de processus, tout à fait à la fin, avec d'ailleurs des interprétations divergentes parmi les médecins et parmi les juristes, d'ailleurs, sur ce qu'il est possible de faire dans ce cas-là. Le résultat est que, effectivement, souvent, des hôpitaux ne le font pas, d'ailleurs. Mais même si elle était mise en œuvre de façon systématique, tout à fait à la fin de la vie, cela ne suffirait pas. Car les souffrances réfractaires peuvent être ressenties bien avant la fin de la vie.
Et en plus, moi, j'ai une petite expérience dans les hôpitaux d'un infirmier. C'est pratiquement impossible de prévoir à une semaine, 15 jours près, le décès d'un patient.
Oui, c'est souvent, malheureusement d'ailleurs, on sait qu'il va encore pouvoir vivre avec ses souffrances pendant un certain temps, mais il est très difficile de dire qu'un malade va décéder dans une semaine, 15 jours, 6 mois. Et c'est d'ailleurs ça, c'est la limite de l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Il dit qu'il faut étendre cette possibilité d'aide, enfin même la créer une possibilité d'aide active à mourir, mais uniquement si la mort est prévisible dans les 6 mois. Et comme vous venez de le dire, c'est très difficile dire que quelqu'un n'en a plus que pour 6 mois.
Et oui, parce que la surprise fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire aussi qu'il ne faudrait pas, si loi il y avait, que les délais soient trop longs pour que les patients puissent bénéficier de cette assistance. Parce que parfois, il arrive que, malheureusement, le décès survienne plus vite que ce qu'on le pensait.
Oui, en fait, moi, je pense qu'il ne faudrait pas de délai du tout, en fait, ne pas prévoir voilà. un délai. mais comme dans les pays européens qui ont autorisé l'aide active à mourir, et comme au Canada d'ailleurs, l'autoriser quand le malade subit des souffrances très fortes, irrémédiables, c'est dans ce cas-là qu'il a besoin d'une aide active à mourir. Et la question du délai, dans ces cas-là, n'a pas à jouer.
Oui. La réponse sur le bandeau de votre essai, c'est la réponse passera par la loi. En fait, moi, j'ai tout simplement envie de vous demander pourquoi maintenant les équipes sont pluridisciplinaires, elles sont multiples. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer de laisser les équipes médicales déterminer si elles doivent répondre à ces demandes ou pas ?
Oui, alors vous faites là une réflexion qui me paraît bien significative d'un soignant, d'un ancien soignant tel que vous êtes, car je constate que même les médecins les plus ouverts à l'idée qu'il faut intervenir dans ces cas-là, ou les médecins, ou les infirmiers, les aides-soignants, enfin tous ceux qui sont des soignants, sont souvent hostiles à une loi. Eh bien, je réponds tout simplement comme juriste qu'il y a un arrêt, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme qui vient d'intervenir et qui confirme que l'aide à mourir, l'euthanasie même, belge en l'occurrence, n'est pas contraire au droit à la vie que consacre la Convention européenne des droits de l'homme, mais à condition qu'il y ait une loi qui dépénalise d'abord l'euthanasie ou l'assistance au suicide et qui prévoit des conditions adéquates et suffisantes pour éviter les abus. Donc, en juriste, je vous réponds, il faudra une loi.
Ouais, c'est juriste contre soignant.
Pas vraiment.
Non, c'est pas contre. Disons qu'on n'a pas la même définition de l'obligation.
Cela se complète, je dirais. Ouais. Les soignants n'ont pas toujours confiance dans la loi. Oh. Et je crois qu'ils sous-estiment les capacités d'une loi à être bien rédigée.
Bah, disons qu'ils ont du mal à peut-être avoir confiance dans les gouvernements depuis le temps. Voilà. Mais on va faire un.
Ouais. On va faire
On va faire un peu de sémantique parce que oui. La distinction entre euthanasie et suicide assisté est importante parce que là on est sur un projet de loi sur un projet de société même où on est à jouer sur les mots en tous les cas les opposants jouent excessivement sur les mots donc je voudrais avoir votre définition exacte quoi.
Oui. Moi, je parle de l'aide active à mourir, de même que le Comité consultatif national éthique parle d'aide à mourir, d'aide active à mourir, et j'englobe les deux à ce moment-là, mais bon, quelle est la différence entre euthanasie et suicide assisté ? Il y a d'abord la vraie différence, et puis après, je vais vous évoquer la fausse différence, mais que beaucoup font encore, enfin, que beaucoup croient être juste. Donc, le suicide assisté, c'est le malade qui fait le dernier geste qui va provoquer sa mort. Par exemple, on lui a prescrit une substance létale et il va boire le verre dans lequel se trouve cette substance. Ça, c'est du suicide assisté, mais il faut encore que le malade soit capable de faire ce dernier geste. L'euthanasie, c'est le cas où un tiers va aider le malade à faire ce dernier geste, va même éventuellement le faire à sa demande, mais pour lui. Donc, par exemple, dans le cas d'un tétraplégique, qui ne peut plus faire ce dernier geste, il ne peut bénéficier que de l'euthanasie.
Oui.
Mais il y a souvent une confusion qui est faite, c'est-à-dire que beaucoup de gens croient que l'euthanasie, c'est quelque chose qui est fait sans le consentement ou sans que ce soit à la demande du malade. Or non, quand on parle d'aide active à mourir, dans tous les cas, ça doit répondre à une demande du malade.
Tout à fait. Le problème des tétraplégiques est bien plus important encore, c'est qu'il est la plupart du temps incapable d'avaler, donc ça passera forcément par une injection,
oui.
Soit directement dans une stomie, soit dans une perfusion, mais donc il y aura vraiment un geste actif du soignant.
Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on voit bien que cette distinction devient de plus en plus artificielle, car en Italie, il n'est, selon la Cour constitutionnelle italienne, il n'est possible que d'avoir un suicide assisté. Il y a des conditions très, très, très difficiles à remplir. Et le seul cas qui a pu avoir lieu concrètement en juin dernier, eh bien, c'était le cas d'un tétraplégique pour lequel on a inventé tout un système très cher d'ailleurs et à sa charge. Les Italiens se sont cotisés pour le lui offrir, qui lui permettait quand même, alors qu'il était tétraplégique, de bénéficier d'une forme de suicide assisté. Donc vous voyez que la différence devient assez artificielle.
On n'est pas loin quand même du championnat du monde d'hypocrisie, là.
On n'en est pas loin, oui.
Ouais, mais... Et quand, comme on est dans les précisions, là, moi, je voudrais préciser ce, qu'on précise bien ici que ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous avez ouvert, écrit ce livre, c'est pour ouvrir un droit et qu'en aucun cas ce ne sera une obligation et que nul ne sera contraint de recourir à cette possibilité. Parce qu'il faut aussi voir que les opposants travaillent là-dessus et que moi j'ai entendu des choses abominables qui traînent. Et donc, parce qu'on en a déjà à entendre des âneries avec le vaccin contre le Covid, par exemple, qui serait vecteur de euthanasie massive des pauvres. Donc là, la loi, ce sera pour les gens qui le veulent.
Oui, absolument. C'est vraiment, c'est répondre à une demande. À une demande qui doit être même réfléchie, qui doit être lucide, il faut vérifier la capacité de discernement de celui qui fait la demande, qui est répétée, et jusqu'au dernier moment, on lui posera la question, est-ce vraiment cela que vous demandez ?
Et est-ce que dans votre conception d'une loi, est-ce que l'équipe soignante qui sera amenée à se dire que oui, effectivement, ce patient-là répond à tous les critères, est-ce qu'il sera obligé de demander l'autorisation d'un juge ou d'une commission, ou à ce moment-là, est-ce que ça ne relèvera plus que de la relation soignant-soigné ?
Il faudra, à mon sens, pour respecter la Convention européenne des droits de l'homme, prévoir qu'il y ait au moins deux médecins qui soit consulté successivement. Enfin, un premier médecin ne suffira pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de médecins critiquent cette future loi. Ils voudraient pouvoir le faire tout seul, à la limite. Mais je crois qu'il faudra deux avis pour y procéder. Et même la Cour européenne des droits de l'homme dit que s'il s'agit de souffrances psychiques liées à une maladie psychiatrique, à ce moment-là, il faut trois médecins. Mais dans ce cas-là seulement.
Donc, il faudrait que trois médecins se mettent d'accord.
Oui, en cas de maladie psychiatrique et aussi si le décès ne paraît pas être prévisible dans un délai...
Le délai raisonnable, qui est une notion un petit peu particulière. Oui, parce que le problème du malade psychiatrique est bien évidemment qu'il est irresponsable. Il n'est pas considéré comme un adulte ou un citoyen majeur. Et à ce moment-là, que vaut sa parole ?
Pas tous les malades psychiatriques.
Non, je parle des psychotiques graves qui sont complètement coupés de la réalité.
Ceux-là ne pourront pas faire une telle demande, effectivement. Parce qu'il faut s'assurer de la lucidité du malade. Et par exemple, cet arrêt, justement, de la Cour européenne des droits de l'homme, il est intervenu précisément à propos de l'euthanasie d'une femme qui souffrait de dépression depuis 40 ans. Et la Cour l'a tout à fait accepté. Oui, il est possible aussi de procéder à l'euthanasie de malades psychiatriques, mais à condition de vérifier qu'ils ont bien une capacité de discernement.
Et on va faire une première pause, parce qu'on a déjà bien avancé, et on va s'écouter Suicidal Tendencies, histoire de changer les idées.
À tout de suite.
À tout de suite. Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. I try hard to do it, and I take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. Like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, you know? I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know? And you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. And they just keep bugging me. They just keep bugging me. There's pills on the side. It's gotta be a suicide. So come and pray with my side. You won't have any sense. I pray with you to see the way. I'm not crazy. Here's the design. You're the one that's crazy. Here's the design. You're trying to be crazy.
my room. And I was just like staring at the wall, thinking about everything. But then again, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. Then she started screaming, Mike, Mike. And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, there's nothing wrong, Mom. She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay. I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no, you're on drugs. I go, Mom, I'm okay. I'm just thinking. She goes, no, you're not thinking. You're on drugs. Normal people don't act that way. I go, Mom, just give me a Pepsi, please. All I want is a Pepsi. And she wouldn't give it to me. All I wanted was a Pepsi. Just one Pepsi. And she wouldn't give it to me. Just a Pepsi. She was good with the cheese. Not really back to see a thief. Just yucky, just lazy. It's the good deal, crazy. I'm not crazy. Here's the truth. You're the one that's crazy. Here's the truth. You're trying to be crazy. Here's the truth. They stick me in an institution. That was the only solution. You need a professor. I'm protecting from the enemy myself. I was sitting in my room. My mom and my dad came in. They pulled up a chair and they sat down. They go, Mike, we need to talk to you. And I go, okay, what's the matter? They go, me and your mom, we've noticed lately you've been having a lot of problems. And you've been going off for no reason. And we're afraid you're going to hurt somebody. And we're afraid you're going to hurt yourself. So we decided that it would be in your best interest if we put you somewhere where you can get the help that you need. And I go, wait, what are you talking about? We decided my best interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy. When I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say no to think for crazy. They've been suffering every day. By the time they think my head, mentally I'll be dead. I'm not crazy.
It doesn't matter, I'm probably gonna get hit by a car anyway.
Nous nous retrouvons toujours avec Martin Lombard et son essai « L'ultime demande » à propos de l'assistance au suicide, enfin le droit de mourir dans la dignité, etc. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est le sujet de ce deuxième numéro de « Bien au contraire ». Donc là, ce que j'aimerais bien voir, c'est la législation des pays limitrophes. Par exemple, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, les Pays-Bas, on a l'impression qu'il suffit de se rendre dans un de ces pays pour bénéficier de cette aide.
Oui, c'est pas du tout si facile. Hein. D'abord, bon, prenons le cas de la Belgique. La Belgique, elle reçoit beaucoup, beaucoup de demandes de Français. Elle en reçoit trop, en fait. Elle ne peut pas toutes les accueillir. Donc, il ne faut pas croire qu'il soit tout simple d'aller en Belgique et d'en bénéficier. Pour la Suisse, eh bien, d'abord, il faut être encore capable de bénéficier d'un suicide assisté, c'est-à-dire de pouvoir faire le dernier geste. Il faut aussi être capable de faire un transport jusqu'à la Suisse.
Hein. Et plusieurs fois, je crois.
Et plusieurs fois, en effet. D'abord, pour obtenir un feu vert provisoire, et puis ensuite, pour consulter à nouveau les médecins et en bénéficier une deuxième fois. Ensuite, il faut franchement un vrai budget. Hein. Quelle que soit l'association à laquelle vous vous adressez, elle demande à peu près 8 500 € pour couvrir les différents frais qu'elles ont. Et cela s'ajoute aux frais de transport. Donc, ça devient presque, je n'ose pas dire un privilège, parce que quand on souffre terriblement, eh bien, ça paraît n'être rien, mais ce n'est pas facile hein, d'aller en Suisse.
Et puis ça peut être aussi difficile pour des gens qui ont très peu de moyens. Ça peut être difficile pour celui qui souffre de priver sa famille d'autant d'argent. C'est tout à fait inéquitable.
C'est très franchement inéquitable. Il y a une vraie inégalité sociale. Et si vous me permettez, il y en a une autre qui existe en France. C'est-à-dire qu'en France, si vous connaissez bien des médecins, eh bien, nécessairement, vous allez en connaître qui vont être prêts à vous aider, en fait, mais à condition d'avoir un bon réseau. Et donc, je dirais qu'en France, ça devient quelque chose d'accessible à ceux qui ont un certain réseau social, et pas à tout le monde. Et c'est terriblement injuste.
Bah, donc, je vous dirais que c'est un petit peu pareil pour se soigner. Hein. Vaut mieux être riche et connaître du monde que pauvre et ne connaître personne.
Oui.
Et donc, que ce soit pour mourir ou pour vivre, ça devient très compliqué quand on n'a pas de réseau ici, maintenant.
Je dirais qu'en plus, quand on subit des souffrances atroces, là, ça devient vraiment, vraiment une injustice à hurler.
Oui. Donc, c'est pas aussi simple que ça. On n'arrive pas en Belgique et on ne dit pas « bon ben voilà, je veux mourir, ok, ben, je vais voir si on a une place ». Alors par contre, dans l'actualité, il y a un suicide assisté qui moi, m'a touché, c'est celui d'une jeune femme qui était uniquement atteinte de troubles psychiques manifestement névrotiques et qui ne mettait absolument pas en danger sa vie en dehors de sa volonté propre. Et qui est morte, je crois que c'est le mois dernier ou le mois d'avant, en Belgique. Et c'est quelque chose qui correspond pas du tout à la définition que vous donnez de ce pourquoi la loi serait faite.
En fait, si. Parce qu'on a juste dit que, et on déformait les faits, hein, qu'elle avait été traumatisée par un attentat, donc l'attentat qui avait eu lieu en Belgique, il y a quelques années, alors qu'elle avait 17 ans. En réalité, cette jeune femme avait déjà été consultée, et plus que, avait été hospitalisée pour des troubles psychiatriques bien avant cet attentat. Elle avait une véritable phobie depuis presque toujours. Et l'attentat n'a fait que lui faire revivre de façon encore plus forte cette phobie qu'elle avait. Et donc, ça fait, même si elle n'avait que 23 ans, c'était des années de souffrance qu'elle supportait. Et il a fallu donc 3 médecins, puisque c'était un cas où son espérance de vie était longue encore. Il a fallu quand même les avis de 3 médecins pour dire que oui, ses souffrances étaient hélas irrémédiables.
Mais ça va même poser si... un véritable problème en France, où la loi... prescrit une hospitalisation sous contrainte pour des gens qui font des tentatives de suicide. C'est-à-dire que le fameux article qui est un danger pour lui-même et pour les autres permet de mettre quelqu'un en hospitalisation d'office, qui est une mesure très lourde, qui est marquée sur le casier judiciaire, qui est interdit par exemple de rentrer dans l'administration plus tard. Et alors d'un côté, il y aurait des gens qui pourraient aller en Belgique et qui pourrait avoir une assistance au suicide. Et de l'autre, la même personne le ferait de l'autre côté de la frontière. Elle se retrouverait bloquée en hospitalisation sous contrainte. C'est un petit peu bizarre. Et si la loi passe en France, il va falloir changer l'autre.
Bon, je pense qu'on peut garder malheureusement l'hospitalisation sous contrainte, ou qu'on doit la garder, notamment pour les psychotiques, ceux qui sont effectivement vraiment dangereux, non seulement pour eux-mêmes, mais pour autrui. En revanche, pour ce qui concerne les souffrances psychiatriques, les maladies psychiatriques, j'observe que de plus en plus de pays, et pas seulement la Belgique, incluent les maladies psychiatriques parmi celles qui peuvent provoquer des souffrances irréductibles. Et par exemple, le Canada a commencé par une loi en 2016 assez restrictive, enfin restrictive. Elle souhaitait que les gens aient une espérance de vie relativement courte, enfin un délai prévisible dans lequel ils allaient mourir. Et puis après, en 2021, une autre loi a été votée qui a supprimé cette condition. Et elle a prévu, cette loi canadienne, qu'à partir de 2023, les maladies psychiatriques pourraient aussi donner lieu à des demandes d'aide à mourir. Mais cette loi prévoit un délai donc de plusieurs années avant que cela entre en vigueur pour permettre justement aux médecins de s'y préparer, d'y réfléchir. Et cela me paraît assez sain comme processus.
Oui, de toute façon, c'est toujours sain de réfléchir. Le problème n'est pas là. Le problème était vraiment entre l'inégalité de traitement entre celui qui a, ou celle qui a fait une demande et celui ou celle qui n'a pas fait de demande. Ça va créer un paradoxe absolument impossible à gérer, quoi.
Il y aura une énorme différence entre les psychotiques et ceux qui souffrent de névrose, comme cette jeune femme qui avait une phobie terrible. Ceux qui souffrent de maladies du type psychose n'auront pas la capacité de discernement nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette loi. Je dirais aussi qu'en Belgique, les souffrances psychiatriques n'interviennent que dans 1,1% des cas d'aide à mourir.
Oui, surtout. Il y a un point sur lequel vous insistez dans votre essai et qui me semble important aussi de préciser, c'est que la vieillesse n'est pas une maladie incurable.
Non, en effet. C'est un débat qui a été ouvert dans certains pays. La vieillesse peut s'accompagner de toute une série de souffrances par ailleurs. Et alors là, dans certains cas, il faut prendre en compte ces souffrances. Mais en soi, la vieillesse, non, n'est pas considérée comme une maladie.
Oui, non. Et c'est important parce que moi j'ai entendu, il y a toujours entendu ou lu, il y a toujours des choses un petit peu comme ça qui traînent, que ça pourrait aider à hâter certains héritages.
Non, mais là c'est vraiment horrible.
On voit des choses horribles chez les opposants. Les opposants.
Oui, mais par exemple, dans les différents pays qui autorisent l'aide à mourir, il est bien prévu que certains entretiens doivent avoir lieu vraiment en tête à tête entre le médecin et le malade. Et que la mission du médecin, et donc plusieurs médecins, puisqu'il faut toujours au moins deux médecins, est de s'assurer que le malade n'a fait l'objet d'aucune pression. Et il le fait parler aussi longuement qu'il le faut pour bien s'assurer que le malade le dit sans avoir été sollicité en ce sens. Un médecin, par exemple, n'a jamais le droit de suggérer à un malade d'utiliser l'aide à mourir. Il faut que ça vienne de lui. Et on va lui redemander en permanence si c'est vraiment bien sa volonté.
Oui, effectivement, ça me semble quand même un minimum.
Absolument, mais l'aide à mourir, comme vous l'avez dit, c'est seulement une liberté. Une liberté qui est de demander à être en bénéficier et de pouvoir l'obtenir, ce qui pour le moment est interdit en France.
Ce qui est totalement interdit, oui, effectivement, et qui se pratique pourtant, soyons honnêtes.
Oui, 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 c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que certains connaissent les médecins qui peuvent le faire, et puis d'autres non.
Non, il y a des médecins aussi qui par leur conscience, par leur pratique, acceptent. Moi, je me rappelle de Schwarzenberg, par exemple, qui avait jeté un pavé dans la mare.
Bien sûr.
Et voir le scandale que ça avait créé. Mais il avait quand même été ministre de la Santé, cet homme-là. Et,
oui.
Et vous parlez aussi, par exemple, d'Axel Kahn.
Oui.
Qui avait une position qui était tout à fait, j'allais dire incohérente, mais disons paradoxale, pour être gentil.
Disons que maintenant qu'il est mort, je ne vais vraiment que dire des choses positives sur Axel Kahn. Mais j'aurais aimé beaucoup débattre avec lui, parce qu'il disait effectivement que le jour venu, il souhaiterait être aidé à mourir, mais que pour autant, il ne voulait pas de loi. Bon. Beaucoup de médecins sont comme ça, en fait. Mais je crois qu'il faudra une loi.
Mais les médecins détestent les lois. Hein.
Je crois l'avoir constaté. Il faut les rassurer sur le fait que deux choses. Les médecins disent soit ça nous empêchera de faire quoi que ce soit. Donc il faut les rassurer sur le fait que ça ne les empêchera pas d'être ouverts. Et d'autres médecins disent surtout pas loi parce que ce serait ouvert à n'importe quoi. Tout serait permis. Donc ce sont des discours souvent complètement antinomiques, mais qui aboutissent à la même conclusion, pas de loi.
Le problème de la loi, c'est l'application, en fait. Et l'application dépend aussi fortement des politiques. Puisque le parquet étant soumis au gouvernement, c'est le parquet qui décide des poursuites ou non. Donc, il y a des interférences qui peuvent être un peu diaboliques.
En tant qu'ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, je ne peux pas vous laisser dire que le parquet est soumis aux ordres du gouvernement.
Non.
Mais effectivement, le gouvernement définit la politique pénale. Ceci dit, s'il arrive trop souvent, effectivement, que le parquet fasse appel de décisions trop rares, d'ailleurs, de quelques juridictions qui tolèrent une aide à mourir. C'est très rare, hein, mais par exemple la cour d'assises pour le docteur Bonne-Maison. Le parquet fait appel parce que, en fait, en France, les juges ne veulent pas remplacer le législateur. Et comme il y a une loi en France qui considèrent que l'aide à mourir est un meurtre, eh bien, les juges et le parquet appliquent cette loi. Et que les médecins ne comptent pas simplement sur la bonne volonté des juges en France, ils ne veulent pas ces juges de gouvernement des juges. Donc il faudra que ce soit le Parlement qui le décide, pas eux.
Est-ce que la loi que vous appelez de vos voeux aurait, par exemple, simplifié l'affaire Imbert, qui a traîné, mais de façon... Enfin, moi, j'étais révolté, et beaucoup de gens autour de moi étaient révoltés de la façon dont ça a été traîné, et dont, en plus, ça a traîné, et dont la façon dont ça a été récupéré et utilisé à des fins politiques.
Patrick, on parle bien de l'affaire Imbert, et non pas Lambert. Hein.
Non, ouais.
Ouais. Dans l'affaire Imbert, mais c'était terrible. Bien sûr que ça aurait simplifié beaucoup les choses, car lui, il demandait tout le temps à mourir. Alors que dans l'affaire Lambert, c'était malheureusement quelqu'un qui ne pouvait plus
s'exprimer. Il ne pouvait pas s'exprimer, donc il aurait même avec quatre médecins autour, ça n'aurait rien changé.
Disons que c'est encore une autre configuration. C'est la notion d'obstination déraisonnable et le fait que quand on a des parents qui sont croyants à un point, enfin presque intégriste.
Ils étaient surtout manipulés par. Il y avait quand même pas mal de monde autour d'eux qui finançait aussi leurs différents appels.
Mais ça a quand même donné l'occasion à la Cour européenne des droits de l'homme de dire effectivement que on pouvait aussi mettre fin à la vie de quelqu'un quand cela devenait une obstination déraisonnable. Donc là aussi, elle a dit oui, avec des conditions à respecter.
Donc chaque affaire comme ça fait un petit peu progresser. Et effectivement, on s'aperçoit petit à petit qu'une législation va s'avérer indispensable à court terme.
Ah, moi, je le crois vraiment. Hein. Et j'ai confiance d'ailleurs dans le fait qu'une loi va intervenir. Parce que depuis l'avis du Comité consultatif national d'éthique, tout de même, bon, je vois que beaucoup essaient de le contredire ou de l'oublier, de le faire oublier. Mais il faut le relire, cet avis, qui reconnaît l'existence de souffrances réfractaires que aucun traitement ne peut apaiser. Alors que faire face à ces gens-là? Les considérer comme une poussière à glisser sous le tapis? Non.
Ce qui revient sans arrêt, c'est on n'utilise pas assez les soins palliatifs.
Bien sûr, et je suis, moi, pour les soins palliatifs. Je n'oppose pas du tout soins palliatifs et aide à mourir, contrairement à ce que croit la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il faut développer les soins palliatifs, mais il y a un moment où ils ne peuvent plus apaiser les souffrances. Et ça, parfois, l'organe qui parle en leur nom, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, veut l'oublier ou dit que ce sont des cas extrêmes, etc. Et puis on passe à autre chose. Non, mais cela existe, ces cas-là. Alors que faire? Eh bien, il faut une loi pour permettre une aide active à mourir.
Eh bien, on va y revenir juste après la deuxième pause musicale, parce que la Société française de soins palliatifs, là, justement, j'ai quelques questions dessus. Et on va s'écouter Eternal Life.
Turn up, major. questions. What is love? Where is happiness? What is a lie?
On écoutait Jeff Buckley, Eternal Life, et nous sommes toujours avec Martine Lombard, qui est l'autrice de L'ultime demande, un essai sur le suicide assisté, l'euthanasie, tout ce que vous voudriez, et qui milite justement pour qu'il y ait une loi le plus rapidement possible. Alors cet essai, il est paru aux éditions Liana Levy. Alors, vous parliez justement de la société, là, SFAP,
oui.
C'est ça.
Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
Voilà, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et qui officiellement est un organisme tout à fait indépendant. Et,
oui.
Et il se trouve que j'ai appris dans votre livre qu'elle n'était pas tout à fait laïque.
Non, elle a été créée à l'initiative notamment de l'association religieuse, l'association des Dames du Calvaire, qui avait créé la maison médicale Jeanne Garnier, qui est un établissement catholique. Et surtout, en fait, aujourd'hui, cette société n'utilise pas clairement des arguments religieux, mais a toujours dans ses statuts des convictions qui sont vraiment d'essence religieuse, sur le caractère sacré de la vie. Enfin, il est dit dans ses statuts très clairement que la mort ne peut être qu'un processus naturel et que les membres de cette société ne peuvent donner la mort volontairement. Donc voilà, c'est un credo qui est inscrit dans ses statuts même.
Alors le problème du credo, c'est qu'il n'est plus du tout citoyen et plus du tout ouvert au débat.
Disons que la SFAP fait de gros efforts depuis quelques temps pour tenter de présenter cela sous des couleurs républicaines. Je vais donner l'exemple de la fraternité. Elle se revendique souvent de la fraternité. Et j'avais l'impression parfois d'un oxymore, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est au nom de la fraternité que l'on refuse d'aider à mourir un malade qui le demande parce qu'il subit des souffrances atroces. Et je dois dire que j'ai été très instruite par la lettre pastorale sur la fin de vie que vous avez citée tout à l'heure. C'est dans ce document des évêques, de la Conférence des évêques de France, que j'ai vu vraiment utiliser ce mot de fraternité d'une façon qui m'éclaire. Parce que la fraternité, pour ce document, c'est d'accompagner celui qui subit des souffrances terribles en étant près de lui et en priant pour lui. Soit une prière des psaumes, soit même une prière silencieuse, est-il dit. Et puis la fraternité repose aussi, c'est un devoir qui repose sur les mourants qui ne doivent pas demander à être aidé à mourir, car ce serait contraire à l'esprit de fraternité qui ferait peser une sorte de violence sur ceux qui soignent.
Exactement, oui.
Donc, en fait, il faut lire la lettre pastorale sur la fin de vie pour bien comprendre comment ce concept de fraternité est un concept vraiment religieux. Et quand on invoque la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout dans le même sens.
Non. Non, non, la fraternité n'a pas du tout le même sens, comme il n'a pas le même sens à l'armée avec le mot de frère d'armes, etc. C'est la fraternité, chacun en fait un petit peu ce qu'il en veut.
Moi, je respecte les convictions religieuses. Je les respecte, mais je souhaite qu'elles n'avancent pas masquées. Voilà.
Voilà. Et la France, de toute façon, les respecte. C'est une république laïque. Et donc, il n'y a pas de problème. Alors, on va venir à quelque chose qui me pose problème. Ça va être que, de toute façon, s'il y a une loi, il y aura clause de conscience par rapport aux médecins. Et quand je vois les problèmes d'application de la loi Simone Veil, encore aujourd'hui, c'est alors qu'elle a été votée en 1974, je me dis que même s'il y a une loi... sur l'assistance, sur le suicide assisté, c'est pas demain la veille qu'elle sera appliquée partout en France avec pour tous les citoyens les mêmes droits, parce que selon que vous habiterez à la campagne ou en ville, selon que vous habiterez dans une région qui sera extrêmement religieuse ou dans une autre qui sera beaucoup moins, vous n'aurez pas du tout accès aux mêmes soins.
Sûrement, il faudra une mise en œuvre. Progressive de la loi, qu'il y aura sûrement un phénomène de montée en puissance, comme ça s'est passé en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Canada, en Espagne actuellement, où dans l'Espagne très catholique, les médecins étaient radicalement opposés à l'aide à mourir. Et pour autant, dès la première année, il y a eu 180 aides à mourir réalisées en Espagne. Mais il y en aura sûrement beaucoup plus par la suite. Je sais que les associations qui se préoccupe de cette liberté d'être aidé à mourir, se préoccupe d'ores et déjà de créer une sorte de réseau de médecins qui seront prêts à la mettre en œuvre véritablement. Et je crois qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, ou en tout cas que certains ne font croire.
Il y a deux choses. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer une sorte de groupe de docteurs la mort ou d'infirmières la mort qui serait un petit peu coupé des autres soignants?
Non, sûrement pas. Je voudrais que ce soit des gens qui fassent ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire soigner, écouter les malades et jusqu'au bout, mais sans être susceptible ensuite d'être poursuivi pénalement. C'est ça la grosse différence. Je voudrais qu'il ne soit plus poursuivi pénalement ou susceptible d'être.
Oui, parce qu'effectivement, dans les services de soins, il y a énormément de médecins qui travaillent bien plus d'heures que ce qu'ils ne devraient et qui, en plus, ont toujours peur d'être poursuivis pour avoir fait leur travail jusqu'au bout. Et ça, c'est assez insupportable.
J'ai beaucoup aimé votre roman, juste vous, Cyprien, où vous montrez quand même d'ailleurs assez bien la limite, parce que à la fin, Cyprien va trop loin, à mon sens.
on va parler de votre SS plutôt, si vous voulez bien. Et que sera-t-il, moi je voulais vous demander, que sera-t-il de la prise en charge des professionnels? Parce qu'il y a des professionnels qui peuvent très bien se dire... oui, effectivement, moi je suis d'accord avec la loi, je suis d'accord, je vais le faire. Mais une fois l'acte réalisé, se retrouver avec une pression psychologique, avec des regrets, des remords, une culpabilité qui sera extrêmement difficile à gérer.
Je crois que ceux qui pourraient ressentir ensuite cette culpabilité ne le feront pas. Mais c'est clair que, pour les soignants, au départ, ce n'est pas quelque chose pour lequel ils sont formés, donc cela peut leur causer des soucis.
Ah, c'est même l'opposé à ce à quoi les soignants sont formés.
Si ce n'est que l'éthique médicale commence à changer, c'est-à-dire on fait des choses de plus en plus incroyables. Déjà, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est déjà une forme d'euthanasie, en fait. Car vous m'avez lu, je crois.
Oui.
Et le Conseil d'État montre bien que cette loi, finalement, si elle était vraiment bien entendue et comprise et respectée comme elle l'est, elle devrait autoriser les médecins à abréger l'agonie, d'ores et déjà.
C'est un peu d'ores et déjà ce qui se passe, en fait.
Pas toujours. En fait, tout dépend du médecin sur lequel vous tombez, oui, de l'équipe médicale sur laquelle vous tombez. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est une loterie, hélas, pour les patients. Si vous tombez sur une équipe médicale pleine d'empathie, elle va effectivement appliquer la loi comme cela. Mais si vous tombez sur une équipe médicale qui est beaucoup plus serrée sur un certain nombre de principes, notamment religieux, elle ne le fera pas. Elle trouvera toujours que c'est trop tôt ou trop tard, enfin que ce n'est pas le moment.
Bah, le problème étant souvent le chef de service. Soyons
clairs. Vous connaissez mieux les réseaux de soins que moi.
Bah, si le chef de service est contre, il n'y a personne qui ira à l'encontre de son avis. Puisque c'est lui qui fait les promotions, c'est lui qui donne les avis de stage, enfin, etc. Donc,
voilà, c'est pour ça qu'une loi est importante et qu'il serait important aussi de prévoir dans la loi que si des médecins refusent, ils devront aussi dire aux patients où ils peuvent s'adresser pour obtenir ce qu'ils demandent.
Votre question, c'est l'hôpital en France, là, aujourd'hui, on le sait, l'hôpital est complètement à bout de souffle. Les soins palliatifs, c'est souvent la dernière roue du carrosse. Il n'y a pas de service dans la plupart. Comment faire aujourd'hui pour créer, en plus, par exemple, des médecins détachés pour accéder aux demandes de suicide assisté? Parce que il y a déjà, par exemple, là, en pédiatrie, ils sont en train de chercher des médecins partout pour soigner des bronchiolites.
Là, pardon, mais je ne souhaite pas qu'il y ait des médecins spécialisés dans l'aide active à mourir. Je prends au pied de la lettre, en fait, et je les trouve excellentes, les recommandations du Comité consultatif national éthique sur les soins palliatifs. Il s'agit de former tous les médecins, dans tous les lieux, aux soins palliatifs, dès la formation initiale et ensuite en formation continue. Et que ce soit les généralistes ou dans les différentes spécialités. Il faut véritablement modifier la formation des médecins pour que tous puissent traiter des soins palliatifs. C'est vraiment à lire minutieusement cet avis. Il est remarquable sous cet angle.
Oui, l'avis, oui. Après, la mise en œuvre quoi, qui risque d'être un petit peu délicate.
Et puis, ce qui est bien aussi dans cet avis, c'est qu'il ne dit pas que c'est un préalable d'améliorer les soins palliatifs. Il dit que ce sont deux volets complémentaires qui doivent être traités en même temps, améliorer de loin la formation des médecins en soins palliatifs et puis prévoir une aide active à mourir. Ou en tout cas, y réfléchir sérieusement.
Et donc, il y a une convention qui va se réunir, une convention citoyenne. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça en revienne à la convention citoyenne sur l'écologie, où on dise oui, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais on ne mettra pas en œuvre ce qui a été décidé?
Disons que je pense que ça va être mieux, en tout cas, que les deux précédentes conventions citoyennes sur la fin de vie qui ont lieu en 2013 et 2018, de façon assez confidentielle, qui toutes les deux avaient souhaité que soit ouverte une possibilité de suicide assisté et qui n'ont pas été entendues à l'époque par le Comité consultatif national d'éthique. Donc, ça ne peut être que mieux cette fois-ci. Hein.
Ouais.
On va commencer par là. En plus, pardon, mais c'est une loi qui serait facile à voter, en fait, au Parlement.
Bah, apparemment, elle avait même commencé à être votée. Et le problème, c'est qu'une loi qui est commencée à être votée, si elle n'est pas entièrement votée à la fin d'une législature, elle est caduque.
Vous avez totalement raison, oui.
Et donc, la loi qui avait été votée en 2021 n'existe plus, en fait. Il faut tout recommencer.
Il faut tout recommencer, en effet. Il faut donc écrire un projet de loi ou une proposition de loi. Mais si je vois la composition actuelle de l'Assemblée nationale, je constate que ceux qui se sont prononcés en faveur d'une aide active à mourir sont ultra majoritaires au sein de l'Assemblée nationale actuellement.
Dans le pays aussi, oui.
Et donc, cela reflète assez bien ce que souhaite le pays aussi, oui.
Donc, au niveau du Parlement, il n'y a pas de problème. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi des enjeux électoraux autour de tout ça?
Disons que le problème d'un gouvernement qui ne bénéficie que d'une majorité relative, c'est qu'il faut négocier chaque texte. Et donc, il peut y avoir des échanges, j'imagine, de fait de temps en temps. Et ce serait dommage que la loi sur l'aide active à mourir passe à la trappe.
Passe à la trappe parce qu'il y a autre chose à passer avant.
C'est un peu ce que l'on peut craindre, en effet. Et donc, j'espère que non, et que nous serons nombreux à être attentifs à ce que cet en... ce n'est pas vraiment une promesse, mais à ce que ce sujet-là soit traité cette fois-ci à fond par le Parlement.
Oh, c'est plus ou moins quand même une promesse. Je crois qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ce que le sujet avance.
Oui, il s'était engagé assez clairement. Je comprends maintenant que pendant la Convention citoyenne, il préfère se tenir un peu en retrait. Je ne le considère pas comme vraiment un recul. Je considère simplement qu'il est assez normal finalement que pendant qu'une Convention citoyenne débat, le politique ne conclut pas déjà sur ce qu'il faudra dire à la fin de cette Convention citoyenne. Donc, OK. Il y a d'abord le temps de la Convention citoyenne, il y aura ensuite le temps du Parlement.
Eh bien, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Nous, on a laissé ouvert le débat et la réflexion auprès des auditeurs. Alors, je voulais vous remercier vraiment beaucoup, Martine Lombard, d'être avec nous. Et puis, je rappelle le titre de votre essai, « L'ultime demande », qui est paru aux éditions Liana Lévy. Merci infiniment. Et puis, c'était vraiment passionnant. Mais on aurait pu faire 3 heures d'émission. Je crois qu'on n'aurait pas fait le tour.
Je pense.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.